Les liquidations judiciaires vont être facilitées malgré la crise. Par Laurent Mauduit, lu par Arnaud Romain. Chronique. C'est un paradoxe inquiétant qui est largement passé inaperçu. Alors que la France risque de connaître dans les prochains mois une vague historique de dépôts de bilan du fait de la crise sanitaire, quand les aides financières aux entreprises s'interrompront progressivement, l'ambition d'Emmanuel Macron n'est pas de contenir le séisme social qui se profile, mais de le faciliter. Le gouvernement s'apprête à transposer, par ordonnance avant le 22 mai, la directive européenne sur la restructuration et l'insolvabilité des entreprises, en date du 20 juin 2019. La philosophie de ce texte est tout entière contenue par cette injonction. Les entreprises non viables, n'ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. Jusqu'à présent, cette transposition en droit français de la directive européenne avait surtout retenu l'attention parce que la chancellerie en avait tiré prétexte pour essayer d'instiller dans les projets d'ordonnance une rétrogradation du superprivilège des salariés géré par le régime de garantie des salaires, AGS. En cas de liquidation judiciaire, et d'avantager en contrepartie les mandataires de justice et administrateurs judiciaires. Ce qui avait suscité un tollé justifié, pour au moins deux raisons. D'abord, parce que certains mandataires de justice et administrateurs judiciaires, essentiellement les plus gros cabinets parisiens, sont connus pour profiter de rémunérations absolument exorbitantes lors des procédures collectives, redressement judiciaire, liquidation, mais plus encore pour des procédures amiables qui donnent lieu à des honoraires encore plus pharaoniques et frappés du secret. Favoriser encore davantage ces professions au lieu de les moraliser apparaissait donc irresponsable. Ensuite, parce que ce projet d'ordonnance, en dégradant l'AGS dans la hiérarchie des créanciers en cas de liquidation judiciaire, risquait de mettre en danger les recettes du régime de garantie des salaires, au moment même où ces dépenses pourraient considérablement augmenter du fait de la vague de faillite qui s'annonce. Dans son rapport au Premier ministre, l'ex-médiateur du crédit René Ricol a donc tiré, à juste titre, le signal d'alarme sur ces deux dangers, sans que l'on sache encore si le gouvernement tiendra compte de ses préconisations et modifiera en conséquence ses projets d'ordonnance. Quoi qu'il en soit, ce débat important autour des dérives des frais de justice imputables à quelques acteurs de la justice commerciale et de la nécessaire défense du régime de garantie des salaires en a occulté un autre. Car, en France du moins, personne n'a relevé les dégâts sociaux considérables que risquait de causer plus généralement cette directive européenne, dont le but principal est de défendre les créanciers, c'est-à-dire, le plus souvent, les banques et la finance, et qui ne se soucie guère des salariés. Cette directive est même une caricature de ce que l'Europe peut faire de pire. Elle vise à accélérer la financiarisation du capitalisme. Alors que dans le vieux capitalisme, le capitalisme rhénan, qui a longtemps prévalu notamment en France et en Allemagne tout au long des Trente Glorieuses, la règle du système reposait sur un compromis entre le capital et le travail. La directive européenne veut favoriser une tyrannie du capital sur le travail, sans le moindre compromis. Adoptée par le Parlement européen et le Conseil européen, cette directive est en date du 20 juin 2019. Elle s'inscrit dans l'esprit du moment, totalement à contretemps par rapport au bouleversement et au revirement provoqué par la crise du Covid depuis mars 2020. On peut consulter le journal officiel de l'Union européenne au milieu de l'article. Il suffit de parcourir ce texte d'inspiration néolibérale pour vite comprendre que la seule cause que défendent ses auteurs, c'est celle des créanciers et de la finance. Cela commence dès le début du texte. L'objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de lever les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement, qui sont dues aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d'insolvabilité, de remise de dettes et de déchéances. Les fonds d'investissement rapaces, les hedge funds et autres géants du private equity, qui ont souvent pour spécialité de siphonner les trésoreries des entreprises et de les pousser vers le redressement judiciaire ou la liquidation, apprécieront sûrement cette prose qui défend leur liberté fondamentale. Au diable les droits des salariés et du monde du travail. Au diable l'Europe sociale, qui n'a en fait jamais véritablement existé. Au diable le droit au travail. Les seules libertés fondamentales qui comptent, ce sont la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre. Et c'est ce principe qui guide toute la directive. Elle fixe comme cap d'accélération des procédures de liquidation judiciaire. Dans le même temps, les entreprises non viables, n'ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. Lorsqu'un débiteur en difficulté financière n'est pas économiquement viable ou lorsque sa viabilité économique ne peut être aisément rétablie, les efforts de restructuration sont susceptibles d'entraîner une accélération et une accumulation des pertes préjudiciables pour les créanciers, les travailleurs et d'autres parties prenantes, ainsi que pour l'économie dans son ensemble. Qui décide que les entreprises sont non viables ? Qui signe leur arrêt de mort en édictant qu'elles n'ont aucune perspective de survie ? On devine ici l'inspiration néolibérale qui guide cette directive. Il faut laisser jouer la main invisible des marchés. Cela a mille et une déclinaisons possibles. Exemple, il faut baisser les prestations chômage, car lorsque les demandeurs d'emploi bénéficient d'allocations trop élevées, ils ne sont pas incités à chercher du travail. Exemple encore, il ne faut pas s'échiner à sauver les entreprises en difficulté, car cela nuit à la compétitivité globale de l'économie, qui ne peut pas s'encombrer de poids morts. C'est d'ailleurs la directive elle-même qui avance une justification à ses voisines, tout en précisant, sans la moindre gêne, qu'une accélération des procédures de restructuration est dans l'intérêt des créanciers, c'est-à-dire, pour l'essentiel, des banques. Seconde citation. Par ailleurs, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l'écoulement du temps ne fait généralement qu'entraîner une perte de valeur supplémentaire pour le débiteur ou son entreprise. Enfin, les procédures de restructuration préventive, d'insolvabilité et de remise de dette efficaces permettraient d'améliorer l'évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d'emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l'ajustement des débiteurs insolvables ou surendettés. Fin de la citation. Cette disposition, soutenue largement avant la crise liée au Covid-19, pourrait toutefois ne plus recueillir l'assentiment des banques aujourd'hui. Si les procédures de faillite sont accélérées, les banques vont devoir provisionner dans leur bilan ces créances douteuses ou irrecouvrables. Les sommes pourraient être gigantesques et mettre à mal leur solvabilité, ce qui les obligerait à se recapitaliser. Ce qu'elles ne veulent surtout pas. Leur intérêt du moment est donc d'entretenir le flou sur ces mauvaises créances, en retardant le plus possible les procédures judiciaires pour nombre d'entreprises. Toutefois, la directive ne s'intéresse pas qu'aux créanciers. Elle parle aussi, au passage, des débiteurs. Mais dans ce cas, c'est aussi pour poursuivre l'œuvre de déréglementation en limitant les poursuites éventuelles contre eux. Seconde citation. Un débiteur devrait pouvoir bénéficier d'une suspension temporaire des poursuites individuelles, que celles-ci soient accordées par une autorité judiciaire ou administrative, ou de plein droit, en vue de contribuer au bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration, afin de pouvoir continuer à exercer ses activités ou au moins de préserver la valeur de son patrimoine pendant la durée des négociations. Lorsque le droit national le prévoit, la suspension devrait également pouvoir s'appliquer aux bénéfices de tiers garants, y compris les garants et les fournisseurs de sûreté. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser d'accorder une suspension des poursuites individuelles lorsque cette suspension n'est pas nécessaire ou lorsqu'elle ne remplirait pas l'objectif consistant à permettre le bon déroulement des négociations. Fin de la seconde citation. Et puis, tout aussitôt après, l'obsession revient. La priorité, c'est de protéger les créanciers. Tous les créanciers. Troisième citation. Satisfaire aux critères du meilleur intérêt des créanciers devrait signifier qu'aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu'il reconnaîtrait soit dans le cas d'une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par cession de l'entreprise en activité, soit dans le cas de la meilleure solution alternative si le plan de restructuration ne devait pas être validé. On l'aura donc compris. Les droits des travailleurs sont du même coup piétinés. Ils ne sont mentionnés qu'à l'occasion de quelques occurrences rapides. Pour couronner le tout, la directive précise bien qu'aucun des pays membres ne pourra échapper au couperet néolibéral. Car quand bien même un pays ne transposerait pas ses dispositions de la directive, l'Union européenne serait fondée à prendre des mesures adéquates. Dernière citation. Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, car les différences entre les cadres nationaux de restructuration et l'insolvabilité continueraient d'entraver la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union. Celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé au dit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs, précise la directive. Au passage, on comprend donc mieux pourquoi la chancellerie désirait déstabiliser le régime de garantie des salaires. Cet objectif, que conteste le rapport Ricol, est dans le prolongement logique d'une directive européenne qui tient les droits des salariés pour quantité négligeable. La politique gouvernementale française s'inscrit donc complètement dans la logique néolibérale de cette directive. C'est d'autant plus vrai que l'adoption de la directive européenne est donc intervenue au moment où a été promulguée en France la loi numéro 2019-486 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, autrement appelée loi Pacte. Or, cette loi, en son article 196, est précisément celle qui a habilité le gouvernement à réformer par ordonnance le droit des entreprises en difficulté, dans un délai de 24 mois à compter de la promulgation de la présente loi. Autrement dit, au lieu de combattre le projet de directive, la France d'Emmanuel Macron a fait du zèle en prenant par anticipation des dispositions permettant au gouvernement de réformer le plus vite possible le droit des entreprises en difficulté. Et quand la disposition a été débattue en première lecture à l'Assemblée nationale, il s'agissait alors de l'article 64 du projet de loi, le débat qui a eu lieu le 5 octobre 2018 a été fait pour le moins expéditif. Et l'article n'a fait l'objet d'aucun amendement. Autrement dit, le gouvernement a tout fait pour que l'opinion publique ne soit pas alertée. Et maintenant, il veut procéder de manière autoritaire, en faisant passer la réforme au pas de charge, par le biais des ordonnances. Tout devrait d'ailleurs aller très vite. Le gouvernement a promulgué la loi Pacte le 22 mai 2019. Or, s'il est habilité à réformer par ordonnance pour transposer la directive européenne dans un délai de 24 mois à compter de la promulgation de la loi, cela veut donc dire que les ordonnances risquent d'être prises dans les prochains jours, et en tout cas avant le 22 mai prochain. C'est dire que le danger est imminent. Une réforme socialement inquiétante, prise au forceps, sans véritable débat public. C'est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, qui cherche à libéraliser et faciliter les liquidations judiciaires au moment précis où il faudrait faire strictement l'inverse. Mediapart.